Vous êtes chef d'entreprise artisanale ou conjoint de chef d'entreprise artisanale et vous êtes non salarié?
Vous souhaitez suivre une formation technique, digitale ou de gestion?
Faites-vous accompagner financièrement pour gagner en compétences et en compétitivité.
Rendez-vous sur le site fafcea.com ou contactez l'organisation professionnelle représentative de votre métier pour vous aider dans vos démarches.
Vous écoutez
RMC. RMC. After Foot. Intégrale Coupe du Monde. Intégrale Coupe du Monde.
Nicolas Jamin.
L'after intégrale Coupe du Monde sur RMC, 23h03 à Paris, 1h03 du matin ici en direct du studio à Doha, et sur RMC, la radio officielle de la Coupe du Monde avec Flo Gautreau, Kevin Diaz. Messieurs, tiens, information qui vient de parvenir, que Polo vient de nous envoyer. Retraite internationale pour Thomas Müller. Les gars, voilà, 33 ans, tire sa révérence.
Voilà quelqu'un de raisonnable.
Au revoir.
Auf Wiedersehen.
Mais attention, restons prudents avec ces dernières tournées, les gars.
C'est raisonnable, ouais, parce que Michel Sardou recommence. Hein, donc,
Aznavour en a fait 3 hein, aussi dernière. Eddie Mitchell aussi.
C'est vrai.
Thomas Müller, donc à 33 ans, se retire.
33 d'ailleurs, et je voyais plus. Tu vois, j'aurais donné 2 ans de plus.
Non, il est de 89, tu vois, Thomas Müller. Ça fait tellement longtemps. Au revoir, Thomas. Tu le tiens bien, Kevin, d'ailleurs.
Au revoir.
L'équipe de France dans un instant, les gars. Mais tiens, je veux quand même prendre 2 minutes pour vous donner votre sentiment sur ce mondial en termes de spectacle, d'intensité. Pas forcément de niveau, mais là, j'ai plein de messages d'auditeurs de l'After qui me disent, mais quelle soirée on vit sur RMC et dans ce mondial également. Hier, c'était magnifique également le dénouement du groupe de la Pologne, Argentine, Arabie Saoudite, Mexique. Comment vous jugez le niveau de spectacularité, comme certains le disaient à l'époque?
Moi, franchement, je suis plutôt agréablement pas surpris, mais je suis plutôt satisfait par ce mondial pour l'instant. On savait que de toute façon les joueurs allaient être prêts, allaient être vraiment en bonne condition puisqu'ils sont en pleine saison. Alors malheureusement, il y a eu bien sûr certaines blessures de joueurs importants, Sadio Mané, etc. Mais le Sénégal a quand même réussi à se qualifier, donc on va dire que ça va. Mais voilà, après c'est toujours pareil. Bon, moi c'est ma façon de voir le foot, c'est ma vision des choses. C'est-à-dire que moi, je suis capable d'être pour ou d'apprécier une équipe comme le Japon quand je vois la ferveur de leurs supporters. Et moi, qui n'ai jamais été un grand supporter de l'Argentine, mais quand je vois ce que ça représente pour ce pays qui a des conditions compliquées en économique, avec l'inflation monstrueuse, etc., et que je me dis que voilà, une victoire, une qualification, ça va donner, encore une fois, le football, c'est bien plus qu'un sport, et ça va donner de la joie de vivre à toute une population quand je vois leurs supporters dans la tribune. Toi, tu m'as envoyé quelques vidéos, Nico, après le match ou pendant le match contre le Mexique. Mais moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça. C'est le football qu'on aime. Je vois les Portugais qui sont satisfaits. Ils n'ont pas été flamboyants, mais ils sont qualifiés.
Non, voilà, les Français, c'était pareil. Émotionnel dans les tribunes. Les joueurs qui chialent comme Lewandowski, comme Ronaldo, les supporters qui pleurent comme ce soir, les supporters japonais. Toi, Flo, ton regard sur ce début de mondial?
Non, c'est plutôt un très bon regard parce que tu prends globalement du plaisir. Je ne vais pas faire le rabat-joie. Mais après, je reviens sur ce que tu disais, toi, sur le niveau. C'est peut-être pas une grande Coupe du Monde. Tu vois, je prends l'exemple de ce groupe E qu'on a vu ce soir. On l'analyse dans tous les sens et on finit par dire que le Japon a joué par intermittence tout en étant premier. Que l'Espagne n'est pas, on vient d'en parler avec Fredo, très forte et qu'elle laisse un goût d'inachevé. Que l'Allemagne, on en a parlé longtemps, elle est éliminée. Le Costa Rica prend 11 buts en 2 matchs. Et je remarque aussi que dans les grandes nations de la vieille Europe aussi, tu vois, ça s'étiole. C'est-à-dire les Pays-Bas, on les attend toujours fort et puis on est déçus. L'Espagne, on vient d'en parler. L'Allemagne, on vient d'en parler. L'Argentine, on l'a été un peu aussi. Le Portugal, quand même, on reste un peu. Et finalement, sur les 2 premiers matchs, la France a vraiment tenu son rang, d'ailleurs, à ce niveau-là, même contre des équipes inférieures. Et le Brésil tient son rang, je trouve, y compris dans les poules. Mais voilà, si on veut résumer, je dirais que c'est spectaculaire, y compris dans les tribunes, c'est agréable, et notamment par des équipes très préparées à ce foot d'aujourd'hui. Je reviens au nivellement évoqué par Kevin. avec des équipes qui courent beaucoup, je pense au Japon et la Corée, qui ont vraiment, ou même au Maroc avec ce jeu vertical, donc ouais. qui ont compris un peu ce qu'il fallait faire pour essayer de passer. Donc ça donne de la spectacularité, mais si on veut être, on fera le bilan plus tard, hein, mais exigeant et peut-être plus exigeant sur le niveau vraiment réel technique, il faut regarder les grandes nations, et les grandes nations, elles sont pas tout à fait toutes à la hauteur.
Même si, Flo, on a failli quand même retrouver toutes les grandes nations, au final, il manquera qui ? Il manquera que l'Allemagne.
Mais ça, c'est classique de ces histoires de poules, Kevin. Je dis la même chose en Ligue des Champions. Il y a toujours la petite surprise, mais en gros, ça sert à malaxer pas grand chose, et à 48, ce sera pareil. C'est-à-dire que là,
à 48, ce sera pire.
Oui, on fera des matchs, et puis après, à la fin, tu récupères un peu tout le monde. Donc, ça, c'est le business. Mais après, c'est pour ça qu'il faut regarder les matchs et le niveau. Sur les nations qui portent et qui ont souvent porté oui. le foot et dans les palmarès, on reste un peu sur sa fin. Peut-être pas sur le Brésil, qui a été à la hauteur, pas servi par ses adversaires d'ailleurs parfois, mais qui a su être à la hauteur et qui a ajouté la spectacularité à la France.
Qui a clairement la meilleure équipe, même sans Neymar, et la meilleure sélection.
Le meilleur groupe, c'est ça, Nico.
Bon, 2026, pour être très clair, pour ceux à qui ça aurait échappé, on aura effectivement 48 équipes, 16 groupes de 3 équipes, les deux premiers qui passeront en 16e de finale. Voilà, mais tu auras le même nombre de matchs en réalité.
Non, mais attention Nico, c'est pas pareil. Parce que là, à chaque match nul, il y aura des pénaltys en plus. Donc ce sera vraiment Disneyland.
Exactement, Disneyland. Du foot en 2026. Un autre Disneyland aux États-Unis, au Mexique et au
sport,
Canada.
Avec la VAR, avec des matchs, on attendra d'être dans le vestiaire pour savoir définitivement le résultat.
Dans le bus, t'as raison.
Et du coup,
garez-vous sur le bas-côté, les gars, sortez du bus.
Du coup, ce sera pas Disneyland, mais Disney World.
Disney World, tout à fait. Alors l'équipe de France, les gars, la France qui jouera donc la Pologne dimanche à 16h. On a écouté Kingsley Coman tout à l'heure dans l'After Live intégral Coupe du Monde, qui parlait de Robert Lewandowski, qui est le danger numéro 1. Parlons de notre équipe de France surtout. Flo, tu veux développer un avis intitulé ainsi: les Bleus sont trop limités pour aller au bout. Jingle Flo Gautreau.
Renaud Lavillenie va sauter Nico Jamin à Lausanne. C'est un vieux souvenir.
Ah, il est vieux. Vas-y, Flo.
Oui, c'est pas très original parce que j'essaie de maintenir péniblement le fil que j'avais tendu avant la Coupe du Monde, parce que j'étais sceptique sur le niveau des Bleus, donc je vais essayer de pas changer d'avis et pas être une girouette. Même si en foot, faut être deux. Et après, faut voir qui est en face. Donc, c'est sûr que de se taper la Pologne en huitième, c'est pas un scénario incroyablement difficile pour la France. Donc, il y a toujours une possibilité de progresser. Et je pense que la France avait évidemment les qualités pour sortir du groupe. Ils ont les qualités pour passer les huitièmes, peut-être les quarts. C'est pour ça que je dis ne pas aller au bout, parce que les faiblesses qu'on a vues hier contre la Tunisie, c'est assez intéressant. Bien sûr, c'est une équipe B. C'est intéressant de voir ce que tu as derrière, ce que tu as dans le réservoir. Et on le savait, parce que même sur l'équipe type, on pensait être un peu limité au milieu de terrain. On l'est clairement au milieu de terrain, même avec nos titulaires. Et on l'est un peu partout avec nos remplaçants. Ça, c'est la réalité. Alors vous allez me dire, c'est pas grave, on est une équipe type. Oui, peut-être, mais on a quand même derrière cela toutes les choix de Deschamps dans la structure de la liste qui ressortent et qui vont ressortir comme des problèmes. Et là, on est sur ces sujets qu'on a évoqués tout à l'heure, même pour l'équipe d'Allemagne, qui sont ceux de la défense. Qui joue en défense centrale? Est-ce que tu dois continuer même avec un Varane, ou est-ce que d'ores et déjà, je sais qu'on a ce débat-là, on doit changer et mettre Konaté? Est-ce que on peut se permettre de continuer en faisant jouer des joueurs qui ne sont pas latéraux au poste de latéral, etc., etc. On en revient à la structure de la liste, au fait que Jonathan Clauss n'est pas là, que Lucas Digne n'est pas là, que un 26e n'a pas été choisi à ce poste-là. Donc sur les Bleus, effectivement, je ne suis pas surpris des qualités qu'ils ont pu afficher contre des équipes inférieures, et je maintiens que leur groupe n'était pas un groupe très fort. Et je pense que pour aller au bout, il faudra être beaucoup plus fort que cela. Et à part la capacité du duo, on va dire, puisque moi je reconnais que moi sur Griezmann, je suis très très surpris de son niveau et dans cette Coupe du Monde. À part sur ce duo-là, Griezmann-Mbappé, qui peut faire la diff, enfin, et notamment Mbappé, je pense que derrière on a des faiblesses. défensivement et au milieu. Je trouve que ça fait
tu
beaucoup.
Tu parles du duo Mbappé, attends, ouais. Je te coupe un des yeux dans ton avis. Mm-hmm. Tu parles du duo Mbappé-Griezmann, tu exclus Dembélé par exemple.
Non,
fait des différences.
Non, Dembélé peut faire des différences, mais on verra dans les matchs décisifs que ceux qui vont apporter vraiment avec l'expérience et avec cette capacité à vraiment faire la diff, ce sera Mbappé. Et je ne crois pas que ce sera forcément Dembélé dans un quart, une demi, puisque j'en suis allé parler de l'équipe qui va aller au bout. Après, moi, c'est surtout au milieu et derrière. Je dis, est-ce que tu peux décemment penser que tu vas au bout avec une équipe de France dont tu ne sais pas exactement aujourd'hui quelle est la meilleure charnière, on en revient au débat qu'on a eu sur la main tout à l'heure, dont tu ne sais pas quel latéraux tu vas mettre parce que tu n'as pas choisi des latéraux dans ta liste et dont tu n'es pas sûr du milieu de terrain qui est à mon avis la salle des machines et qui est quand même le nœud du problème de l'équipe de France. Donc c'est là on part maintenant dans les matchs à élimination directe. L'intérêt c'est de savoir en gros si tu es champion du monde en titre. Il y a des équipes que je l'ai dit tout à l'heure qui en plus sont pas forcément très fortes en ce moment sur les grandes nations habituelles du foot. Donc il y a aussi une occasion à part le Brésil. On peut dire qu'il y a une occasion. On peut pas dire que la France a à rougir face à l'Argentine. On pourrait pas dire que la France aurait à rougir face aux Pays-Bas. Donc pourquoi pas. Et malgré tout, je pense que de manière intrinsèque. La structure de cette liste et les interrogations qui pèsent sur la défense et le milieu me laissent penser que ça sera compliqué d'aller au bout.
Kevin, tu réagis à l'avis de Flo dans un instant. D'abord, j'accueille Nicolas au 32-16, supporter de l'équipe de France. Salut Nicolas.
Oui, salut. Bonsoir tout le monde.
Bienvenue dans l'After, salut, en direct de Doha, Nicolas.
Merci à tous. Hein.
Bon, écoutez, tu es à quel niveau de confiance pour l'équipe de France pour aller au bout? Flo l'a dit, maintenant que tu es en 8e, tu penses à la victoire finale?
Ben, ayant vu toutes les équipes jouer, je vois pas comment on pourrait ne pas la gagner. Maintenant, c'est tellement le football est tellement irrationnel que moi je nous vois favoris, je nous vois aller au bout, je vois personne nous inquiéter si tous nos joueurs sont au top, même peut-être sans latéraux comme vous le dites. Maintenant, ce qui m'inquiète moi c'est le fait qu'on joue avec notre banc, en fait, parce que nos titulaires, nos 3-4 titulaires au milieu de terrain et en défense sont blessés. Donc, du coup, on a été obligé de mettre le banc titulaire et qui fait une bonne performance en poule, c'est-à-dire Rabiot, Tchouaméni et Upamecano Konaté sur le premier match. Et c'était des joueurs qu'on ne voyait pas du tout titulaires il y a 6 mois en arrière, même voire il y a 1 an en arrière. Et même les latérales, hein, Théo Hernandez à la base, on pensait que c'était Lucas Hernandez qui allait commencer. Devant Dembélé, c'est une surprise qu'il soit titulaire parce que il a pratiquement pas joué en National League et sur les derniers matchs de l'équipe de France, parce que c'était souvent Benzema, Mbappé et Griezmann, parce qu'on a souvent joué avec ce trio-là. Aujourd'hui, Benzema n'est plus là. Griezmann peut enfin retrouver un poste un peu plus qui lui convient mieux.
Et on conforme à ses qualités, à son âge, tu as raison.
Ouais. Exactement. Et moi, pour moi, par exemple, le trio Mbappé, Benzema, Griezmann, je l'aurais bien vu avec un entraîneur un peu plus joueur comme Zidane. Je pense qu'il aurait réussi à les associer. Avec un entraîneur un peu plus craintif comme Deschamps, je ne pense pas qu'il se soit attardé sur ce trio-là. Donc, à un moment donné, c'est les plus forts, ceux qui ont, comment dire, qui ont une influence beaucoup plus forte sur le jeu, qui se sont imposés. Et c'est des mangeurs de buts comme Mbappé, comme Benzema, et c'est eux qui ont pris la lumière sur eux.
Bon, Benzema, il n'est pas là, mais je vois où tu veux en venir, hein, dire que Zidane aurait peut-être fait un peu mieux jouer cette équipe et aurait pu inclure...
Oui, mais ça, je dis ça, mais je m'en fous en vrai. Je veux dire, je suis pas en train de regretter Zidane, mais au contraire, je suis très content de ce que Deschamps fait, et ce qu'il fait avec cette équipe, c'est fabuleux, fabuleux. Et je pense qu'il ne faut pas être trop critique, ni trop ambitieux.
T'es ambitieux puisque tu dis que tu vois personne qui peut battre l'équipe de France.
Mais parce que ça c'est la réalité. Sur ce que j'ai vu maintenant, on a fait 6 sur 6 avec le Brésil, les autres équipes elles ont galéré.
En 2021, il y avait Benzema, il y avait Mbappé, il y avait Pogba, il y avait tous les joueurs quasiment qui étaient aptes à jouer. Est-ce que tu voyais l'équipe de France perdre contre la Suisse?
Mais exactement, c'est pour ça que je dis que le football il est irrationnel et qu'à un moment donné, on est obligé de on peut pas deviner l'avenir, quoi. Donc,
mais nous, on devine pas l'avenir, Flo. Tout ce qu'il a dit, c'est que, au vu des absents, comme toi tu as dit, au vu des seconds choix qu'on est obligé d'aligner, l'équipe de France, bien sûr, qu'elle sera difficile à éliminer et qu'elle a toutes ses chances. Mais de là à dire comme toi que tu ne vois personne, je pense qu'il y a quand même une équipe qui joue en jaune et qui a 5 étoiles sur le maillot. Je pense que celle-là peut-être éliminer la France. Mais bon, après.
J'ai vu le Brésil jouer. J'ai pas trouvé le Brésil plus flamboyant que nous. Franchement,
La différence, pour rejoindre ce que dit Kevin, Nicolas, excuse-moi, je te coupe, c'est que le Brésil, quand il faut rentrer Anthony, Rodrigo, notamment à la 65e minute de jeu, sans perdre de niveau ou sans dégrader l'apport offensif.
De toute façon, c'est simple. Concernant le Brésil.
Concernant le Brésil,
tu verras l'équipe B du Brésil demain et tu vas voir que c'est une grosse différence avec l'équipe B de l'équipe de France.
C'est une grosse différence, ok, mais est-ce que c'est ce qui va faire qu'ils vont nous battre?
Je suis pas devin. Je peux pas te dire ce qui va faire, qu'ils vont nous battre. Je sais même pas si on va les rencontrer dans le mondial. Tout ce que je te dis, c'est qu'à l'instant T, la meilleure équipe et celle qui non seulement a la meilleure équipe et en plus a les meilleurs remplaçants, c'est le Brésil. C'est tout ce que je peux te dire. Moi, c'est mon avis. Après, si tu penses que la France est au-dessus, bon, je sais pas.
Je pense que le 11 de départ de la France est au-dessus. Après, je pense qu'on a 13-14 joueurs qui vont aller au bout si on n'a pas de blessés. Et ça sera comme ça jusqu'au bout. Je pense pas que Didier Deschamps va incorporer Veretout ou Guendouzi ou Fofana.
Mais après il reste 4 matchs avec la finale, donc bien sûr qu'il va pas les incorporer s'il n'a pas à les incorporer. Mais tu sais très bien comme moi que dans le football il y a des impondérables. Tu peux avoir un suspendu.
Bien sûr, mais c'est pour ça que je dis.
Tu peux avoir un blessé, tu peux avoir ceci, et c'est là que tu vas devoir incorporer des joueurs qui ne sont ni Ederson le numéro 2 du Brésil, qui ne sont ni Fabinho le numéro 6 remplaçant du Brésil, qui ne sont ni Rodrigo ni Paqueta ni etc. Je vais pas tous te les faire.
Non, mais exactement. Mais moi, ce que j'essaye d'expliquer, c'est que pour le moment, on n'a rien vu. J'ai pas vu une seule équipe m'éblouir. Même si le Brésil, ils ont 22 joueurs fabuleux qui seraient titulaires dans n'importe quel club au monde, n'importe quel grand club au monde. Ouais. Pour le moment, j'ai pas vu. Par exemple, je disais, j'ai vu une vidéo avec. Le Brésil de 2002 avec Ronaldinho, Ronaldo, et je me suis dit, ah ouais, en fait, je comprends pourquoi le Brésil de 2022 ne m'impressionne pas. Parce que c'était ça le vrai football, c'était ça le vrai Brésil. Là, pour le moment, ce qu'on voit, excusez-moi, mais à part le but de Richarlison, qui est magnifique, mais dans le jeu, je vois pas des combinaisons, je vois pas ça pendant 90 minutes.
À mon avis, t'as pas vu jouer le Brésil, à mon avis.
Pendant 20 minutes. Oui, je les ai vus. Mais pendant 20 minutes, 30 minutes, ils ont fait ça. À partir du moment où ils ont marqué le premier but, ils se sont lâchés.
Nicolas, je pense que le Brésil finit par épuiser l'adversaire à force de coups de butoir. C'est ce qu'on a vu sur les deux premiers matchs. C'est pas forcément encore très spectaculaire, mais ça finit par épuiser. Merci, Nicolas. À très vite sur RMC. N'hésite pas à refaire le 32-16, les gars, dans un instant. Vas-y, Flo, très rapidement. Après, on refait le débat sur les questions.
Sur le Brésil, ce qui est intéressant, et peut-être qu'on se trompe, hein, ils iront peut-être pas au bout parce que c'est rarement le favori qui gagne, mais comme tu l'as dit, y compris défensivement, c'est une équipe qui fait le travail de manière très très au niveau de l'impact, tu vois, très très fort. Donc,
mais même l'Argentine que j'ai vue hier, hein, c'est quand même pas mal du tout. Alors, c'est pas le Brésil, c'est pas la France, mais il va falloir les sortir
sur certains postes, effectivement.
Ils ont battu le Brésil en finale de la Copa América.
C'est vrai. Et c'est pour ça que je pense que les certitudes, notamment au milieu de terrain de certaines équipes, sont supérieures à celles du milieu de terrain de la France. Et n'oublions pas quand même, parce qu'on l'a presque oublié, parce qu'on a Mbappé, qu'on a ce fameux réservoir offensif, que l'absence de Benzema, qui est quand même le meilleur joueur de la saison.
Non, parce qu'il y a des supporters qui vont te répondre qu'on a gagné en 2018 sans Benzema.
C'est vrai, c'est vrai. Moi, je suis un fan de Giroud, tout le monde le sait, donc je suis ravi que Giroud puisse en servir.
C'est juste qu'en 2018, la moitié des joueurs de cette équipe avaient 4 ans et demi de moins. Donc déjà, ça change tout, avec ou sans Benzema.
C'est vrai.
Voilà,
Nicolas. Je me suis arrêté parce que je savais que déjà on était en débord.
En débord. Et peut-être que tu as oublié le fil de ta pensée aussi, peut-être.
Peut-être aussi, ouais. Mais bah, ça va revenir.
À tout à l'heure, les gars, vous restez avec moi dans quelques secondes. On va resserrer le débat sur la défense centrale de l'équipe de France. Varane n'a pas été bon. Il faut le reconnaître contre la Tunisie. Y a-t-il un doute? Y a-t-il un débat? Varane ou Konaté avec Upamecano, venant débattre au 32-16 avec nous dans l'after intégral Coupe du Monde RMC. Il est 1h21 à Doha. Il est plutôt chez vous, les gars, 2h de moins, 23h21. Restez avec nous, on revient dans quelques secondes. À tout de suite.
RMC After Foot, intégrale Coupe du Monde. Intégrale Coupe du Monde.
Nicolas Jamin.
Avec Kevin Diaz, avec Flo Gautreau, en direct de Doha, 1h26 au Qatar, 23h26 à Paris, messieurs. On va prolonger sur l'équipe de France. Hein. Qui avec Upamecano, y a-t-il un doute, un débat? Varane ou Konaté? Varane n'a pas été bon face à la Tunisie. Tiens, quelques infos à vous donner rapidement concernant Neymar, qui est le seul joueur de la Seleção à ne pas avoir quitté l'hôtel aujourd'hui. Il est en plein travail de récupération dans le Westin Hotel de Doha. Peut-être que ça l'arrange, hein. Peut-être que ça participe à la récupération de Neymar. Lui ne s'est toujours pas entraîné, bien sûr, on le sait. On ne sait pas quand il viendra. Alors au Brésil, on dit que ce ne sera pas avant une éventuelle demi-finale. On verra ça dans les prochains jours. Je vous dis également qu'Hansi Flick reste bien sélectionneur de la National Mannschaft malgré l'élimination. Et puis tout à l'heure, on parlait de la Belgique également. On avait beaucoup de larmes, notamment celle de Romelu Lukaku, qui a vécu un cauchemar, qui a eu 4, voire 5 grosses occasions. Et
c'est quand même
pas marqué.
C'est révélateur un peu d'en parler avec Kevin là, hors antenne. Et moi, j'aurais vraiment beaucoup les neufs. J'aime beaucoup ce genre de joueur. C'est très très dur, mais pas très étonnant par rapport à ce qui lui arrive depuis un an. Je pense que dans son prime, il y a, je sais pas, un an et demi, il aurait mis l'une de ses occasions.
Son prime à l'Inter, exactement.
Ouais, et je pense que là, il a perdu un truc que tous les attaquants connaissent, c'est la confiance. Il n'a pas le bon body language, il ne sent pas l'erreur sur de Lovren, enfin il n'anticipe pas une erreur éventuelle. Quand tu es derrière gardien défenseur, si la balle, le centre n'est pas bon, tu ne peux que espérer une erreur d'un défenseur ou d'un gardien, et ça n'importe quel attaquant le fait, n'importe quel attaquant tacle avant le centre sur certains tirs, etc. Il n'a pas ces gestes-là. Il avait presque raté ses occasions avant de les mettre. Il se mettait une énorme pression, notamment cette balle de la tête. C'est vrai que c'est Lukaku. Je pense que c'est terrible. J'ai entendu Eric Dimeco qui a dit la phrase juste. Je pense qu'il va pas dormir. Il va très mal dormir. C'est très dur. Mais en revanche, sur le global de cette équipe-là, c'est, on le disait tout à l'heure, le destin annoncé d'une équipe vieillissante. C'est De Bruyne lui-même, hein, qui l'a dit dans cette Coupe du Monde.
C'est un crépuscule pour cette sélection.
De toute façon, les Belges, ils sont assez francs en général.
On en parlait tout à l'heure avec. Ils ont des problèmes aussi de relationnel au sein de l'équipe. Hein,
et ça a toujours été ça. Monde, hein. Entre les Wallons, les Flamands,
entre
les vieux, les jeunes.
Les défenseurs et les attaquants, là, c'était clair.
C'est n'importe quoi. Puis l'histoire de Bruyne Courtois, ces deux hommes qui ne se parlent pas depuis maintenant 2014. Voilà, on sera avec un confrère. D'ailleurs, une histoire savoureuse également, qui a été démentie aujourd'hui au sein de la sélection serbe. Je ne sais pas si vous l'avez suivi, non. Entre Dusan Vlahovic notamment et Rajkovic, et la compagne de Rajkovic. Voilà, vous avez compris. Je voulais en venir dans ce triangle présumé amoureux. Messieurs, je voulais dire également que Roberto Martinez va quitter
film,
la sélection.
Deux aussi. Hommes, une femme, trois possibilités.
Non, je ne l'ai pas
vu. Ou je ne sais plus, c'est un homme, deux femmes, trois possibilités.
J'ai vu trois hommes, un couffin. J'ai vu.
Ouais.
J'ai vu le cœur des
hommes. Quatre mariages et un enterrement.
Quatre mariages et un enterrement, c'est ça. 9 semaines et demie aussi.
3-0.
Bon, les gars, Roberto Martinez a annoncé qu'il quittait la sélection belge. Il était en fin de contrat. Il est aussi DTN. On en parlera tout à l'heure avec notre confrère journaliste belge qui sera avec nous dans quelques minutes. Je vous rappelle également qu'RMC et Foot Corner vous font gagner des maillots de sélection nationale de cette Coupe du Monde. Et ce soir, un maillot collector. Il faut envoyer foot au 32-16. Foot au 7-32-16 pour gagner le maillot de la National Mannschaft. C'est pas une blague. C'est très simple. Foot au 7-32-16.
Ça reste un maillot mythique, hein, éliminé ou pas. T'as raison. Hein.
Gagnez votre maillot sur RMC avec footcorner.com. Les maillots de vos équipes favorites et toutes les plus grandes marques de sport sont sur footcorner.com.
Avant la compétition, Nico, j'avais le choix entre le maillot de l'Allemagne et le maillot du Japon. J'avais choisi le maillot du Japon. Je dis ça, je dis rien.
Tu dis ça, tu dis rien. Bon, ben écoute, on verra. On parlera des Japonais, hein. Jusqu'où peuvent-ils aller?
Tu penses qu'ils vont taper la Croatie?
Je sais pas. Moi,
c'est assez ouvert, je trouve.
J'ai une telle acquaintance avec Luka Modric que je ne peux pas parier contre la Croatie.
Hiroki Sakai a été interrogé. Réaction que nous envoie à l'instant Flo Germain. Éliminer la Croatie, Hiroki? Bien sûr que c'est possible. Nous venons de battre l'Espagne et l'Allemagne. C'est assez incroyable.
C'est sûr,
voilà,
c'est sûr que c'est possible.
Plus rien n'est impossible pour la sélection japonaise. L'équipe de France, les gars, je vous dis rapidement également qu'à partir de minuit, heure française, la libre antenne prend le relais comme tous les soirs depuis le début de ce mondial avec Nico Villas qui sera aux manettes. Alors, Varane, Konaté, y a-t-il un débat? On est d'accord, on part du principe que Upamecano, titulaire indiscutable en défense centrale, juste pour le dire très rapidement.
Oui, je pense qu'il va être titulaire, même si Konaté a été bon.
Alors justement, c'est le débat. Konaté ou Varane, y a-t-il un doute, y a-t-il un débat? Julien est avec nous, 32-16. Salut Julien.
Salut. Salut. Merci de me recevoir.
Mais on est heureux de t'accueillir ici à Doha en direct. Il est 1h31 du matin. Alors, est-ce que tu as un avis sur la question? T'es plus Konaté ou Varane? Ce débat, on le fait aussi parce que Varane a montré des signes plutôt inquiétants face à la Tunisie hier, comme le reste de son équipe, cela dit.
Bah, il y a deux raisonnements à avoir, moi, je pense. Aujourd'hui, en tant que sélectionneur, je me mets dans la tête de Didier Deschamps. Varane, c'est son pilier indéboulonnable en défense centrale. Bien évidemment, je pense qu'il va être titulaire aux côtés d'Upamecano. Moi, maintenant, mon avis perso, je trouve que Varane a été très limite contre la Tunisie. Il n'est pas tout à fait remis de sa blessure. Hein. On le sait, il a une blessure quand même assez grave avec Manchester United. Il a une préparation tronquée. Konaté, comme tu l'as dit, moi, je pense qu'il a montré de très belles choses face à l'Australie. Ils ont déjà joué ensemble à Leipzig avec Upamecano. Moi, à ma place, je mettrais le duo Konaté-Upamecano. Sans hésiter. Maintenant, on sait comment on va réfléchir Deschamps. En vrai, il n'y a pas débat aujourd'hui. Hein, on se met dans la tête du sélectionneur. On a déjà la charnière centrale qui va jouer. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi.
Tout à fait d'accord, parce que le bon débat, c'est toujours problématique. C'est qu'est-ce que doit faire, enfin, ferait Deschamps ou pas? Ça, on le sait, en fait. C'est-à-dire que le débat, il n'existe pas sur ce que va faire Deschamps, qui va mettre Varane. Et après, on en revient après donc à ce que je disais de longue date sur cette charnière de l'équipe de France qui va de Loris, Varane, Pogba à l'époque, Griezmann, où je voyais moi un affaiblissement logique hein, dû aux années qui passent. Bah, je maintiens le raisonnement pour Varane et je pense qu'effectivement, vu la complémentarité et la complicité. Et l'antériorité, je crois que c'est une cinquantaine, soixantaine de matchs, même pour le Konaté avec Upamecano, notamment à Leipzig.
C'est quatre saisons à Leipzig ensemble, les gars.
Voilà, bon, oui. je crois que j'ai vu des stats autour de 57 matchs. Oui, ce serait pas du tout déconnant de faire ça. Sauf que, comme d'habitude, Deschamps l'a fait quand il a été contraint de le faire pour laisser Varane au repos. Sinon, il le fera pas. Donc, il y a un débat qui est légitime. Techniquement, il est intéressant et je serais de l'avis de, j'ai oublié ton prénom, excuse-moi.
Julien,
pour dire que je préférerais aussi aller sur une charnière plus rapide, plus jeune et complémentaire, qui est celle de Leipzig, pour faire simple. Mais si c'est pour savoir ce que va faire Deschamps, bah, il va mettre Varane. L'équipe, on la connaît à peu près, donc il va mettre Varane
et Upamecano.
Moi, je pense quand même qu'on a besoin de l'expérience de Raphaël Varane, même si Konaté a été bon. Et puis, de toute façon, il n'y a même pas vraiment de sujet, parce qu'au final, on sait tous que Didier Deschamps fera ce choix de titulariser Raphaël Varane, sauf problème physique. Et je pense que j'aurais fait le même que lui, parce que ça, c'est quand même un joueur qui a toujours répondu présent en équipe de France et qui est un des leaders de cette équipe, un leader de ce vestiaire. N'oublions pas que c'est important. Et donc, je pense que demain, ce week-end, ce sera bien sûr Raphaël Varane qui jouera contre la Pologne.
Mais est-ce que, Kevin, c'est pas justement ce genre de raisonnement? Comment dire, où il faut être parfois dans l'anticipation, dans le coup d'avant de la part d'un sélectionneur, c'est-à-dire bien sûr que tu t'appuies.
Une charnière centrale, c'est quand même important, sachant qu'on a dit tous les problèmes qu'il y a au milieu de terrain. Il reste peu de monde de cette colonne vertébrale de 2018. Il reste quand même Hugo Lloris qui est performant en club. Varane, avant de se blesser, il était performant avec Manchester United. Et derrière, au milieu de terrain, on n'a personne.
Ah, si, il descend quand même.
Sur les dernières semaines avant sa blessure avec Martinez, ils avaient quand même redressé la barre dans cette défense.
Ouais, moi je vous trouve un petit peu dur quand même sur le milieu de terrain. Je vous écoute depuis tout à l'heure en disant qu'on montre des carences au milieu, etc. Moi, le milieu, sincèrement, je l'ai pas trouvé mauvais. Je l'ai même plutôt trouvé bon, que ce soit face à l'Australie ou au Danemark.
Ouais, mais tu l'as dit.
Et on a un Rabiot qui s'affirme vraiment.
T'as dit Australie-Danemark. Hein. Moi, le Danemark, on les a surcotés complètement par rapport au fait qu'ils avaient battu la France.
Ils ont raté leur Coupe du Monde.
Ouais, ils ont raté leur Coupe du Monde, mais quand tu regardes les matchs, justement,
sur l'année dernière, ils vont en demi-finale de l'Europe.
Oui, mais
il n'y a pas vraiment de règles aujourd'hui. On a bien vu. Il y a plein de favoris qui sortent, plein d'équipes. Grosse comme l'Allemagne.
Peu importe. Aujourd'hui, le titulaire de l'équipe de France au milieu de terrain, c'était censé être N'Golo Kanté. Malheureusement pour nous, il est blessé depuis très longtemps. Voilà. Ouais. Derrière, c'était pour jouer avec Paul Pogba, qui lui aussi a un problème physique. Et ensuite, il y a Adrien Rabiot. Donc, du coup, tu as quand même le deuxième et le troisième choix du milieu de terrain français, c'est tout. C'est pas très grave, mais c'est juste pas le premier choix.
C'est pas le premier choix, mais Rabiot, moi quand j'ai quand même suivi des matchs avec la Juve cette année en Ligue des Champions, même si ils ont quand même été sortis ou en championnat, moi je trouve qu'il a fait quand même de très bonnes prestations et que là, même si c'est le Danemark ou l'Australie, le gars il a montré de bonnes choses. Sincèrement,
mais on n'a pas dit qu'il n'avait pas montré de bonnes choses. On a dit que c'était pas le premier choix.
C'est pas le premier choix, mais c'est quand même un bon choix, je pense. Faut pas être aussi pessimiste sur le milieu de terrain. Moi, je pense que même avec Griezmann en numéro 8, il y a eu des choses intéressantes, et je pense qu'on peut être optimiste pour la suite. Moi, il faut pas les enterrer tout de suite. Bon, même si on sait que contre la Pologne, ça devrait le faire. Et on s'inquiète un petit peu pour la suite de la compétition, mais il faut quand même regarder ce milieu à 3 qui a bien fonctionné avec des joueurs qui sont titulaires toute l'année en Ligue des Champions, hein, même si Tchouaméni n'est pas forcément titulaire avec le Real. Quand il a fait des rentrées, il a quand même montré de bonnes choses, et ces mecs là ils ont l'habitude du haut niveau. Moi je suis sincèrement très confiant. Là où je suis, il y aura un petit débat, je pense, en ce moment en équipe de France, c'est plutôt à droite. Quand on sort un Pavard qui a fait un mauvais match,
on va en parler,
et qui a quand même répondu présent en équipe de France depuis 2018, un mauvais match on sort, et Koundé, moi, pour le voir jouer avec le Barça ou avec Séville l'année dernière, il m'inspire pas du tout confiance. C'est là, je pense, où aujourd'hui il y a plus un débat que la charnière centrale.
Tu vas être d'accord avec mon avis qui va venir juste après, Julien.
D'accord, ok, bah c'est bon alors.
Merci Julien.
Avec grand plaisir.
Merci Julien, à très vite sur RMC et dans l'After Intégral Coupe du Monde. Ton avis porte sur Benjamin Pavard, mon cher Kevin.
C'est ça.
Nous t'écoutons d'abord ton jingle. Et il n'y a pas de jingle pour Kevin Diaz, c'est pas grave, tu vas dérouler. Je rappelle l'intitulé, il faut absolument sauver le soldat Pavard, il sera utile dans la suite de la compétition. Pourquoi, mon cher Kevin? Je rappelle que le sélectionneur Deschamps a dit qu'il a pris un entretien avec Benjamin Pavard, qu'il n'était pas dans les bonnes dispositions pour jouer contre la Tunisie. Pour la suite, on le verra. Ça semble plus être un problème mental que physique pour Benjamin Pavard. C'est Fabrice Hawkins qui nous disait, qui nous rappelait que lui avait déjà fait, avait déjà expliqué qu'il préférait jouer dans l'axe, dans l'absolu, mais qu'il était quand même prêt à rendre service sur un côté. Le joueur a été très touché par sa mauvaise performance contre l'Australie pour le match inaugural des Bleus dans ce mondial. Kevin, pourquoi faut-il absolument compter sur Benjamin Pavard?
Bah écoute, je pense que j'ai été formidablement lancé par Julien, qui, comme les auditeurs de l'After, sont souvent pertinents, parce que il en a parlé lui-même, hein, du fait que Jules Koundé à droite, ça peut être une solution de dépannage, mais ça ne reste qu'un dépannage. Et comme tous les dépannages, et ben ça peut, il peut y avoir quand même une petite fuite de temps en temps. Et donc, moi je pense qu'un joueur comme Pavard, c'est sûrement pas le meilleur latéral droit du monde, mais en tout cas, c'est un joueur sur qui tu vas devoir t'appuyer en cas de problème avec Koundé, ou même s'il ne répond pas complètement, ou qu'il ne donne pas satisfaction complètement. Donc voilà, moi je trouve que c'est un joueur pour qui Didier Deschamps a toujours eu beaucoup de confiance et qu'il a toujours fait jouer quasiment à chaque fois qu'il a pu. En tout cas, ça a pu être central, ça a pu être central à 3, ça a pu être arrière latéral, ça a pu être piston. Donc bref, aujourd'hui, je pense qu'il faut pas brûler ce que tu as aimé. Je sais pas quelle est la situation personnelle de Benjamin Pavard au sein du groupe, ou je connais pas son niveau de confiance, mais je pense que on peut en avoir besoin. On a déjà très très peu de choix en ce qui concerne les joueurs de couloir. On va pas revenir sur cette constitution de liste ubuesque avec un nombre de défenseurs centraux invraisemblable, et par contre très très peu de latéraux, alors qu'on avait quand même des latéraux qui jouaient dans de grands clubs. Je vais pas y revenir, mais voilà. Donc je pense vraiment que on peut avoir besoin de Benjamin Pavard. Encore une fois, c'est peut-être pas le meilleur latéral droit, mais c'est quelqu'un qui essaye toujours de faire son travail assez consciencieusement, qui joue quand même au FC Bayern, et ça, c'est pas rien.
Mais pas forcément latéral droit.
Et ah ben si, au FC Bayern, il a joué 14 matchs cette année, latéral droit.
Oui, mais lui...
Une dizaine en défense centrale.
En défense centrale. Et c'est le destin de Pavard depuis le départ que d'être en défense centrale. C'est l'idée aussi générale qu'il est maintenant meilleur en défense centrale.
Ouais, et il a toujours été défenseur central, à la base.
On en revient donc, effectivement, c'est pour ça que je ne vais pas incriminer Pavard. Je l'ai souvent critiqué très fort en équipe de France récemment, en pensant que ça ne le ferait pas. Et on se retrouve en début de Coupe du Monde avec un débat qu'on a encore ce soir d'ailleurs, et que Deschamps maintenant a lui-même instauré, puisqu'il a d'ailleurs dans sa nouvelle méthode de communication hein, cette année, un peu différente, où il dit un peu plus de choses quelque part en conférence de presse. Il a un petit peu exposé en plus Pavard là pour le coup.
C'est ça.
C'est là il a
c'est pas anodin, Flo, je pense.
Non, c'est pas anodin. C'est pas anodin.
Deschamps qui dit pas grand chose en général sur les joueurs, surtout en pleine compétition.
Oui, t'as remarqué, Nico, depuis qu'il est un peu plus en danger, il a lâché avant la Coupe du Monde son système. Jamais il avait fait ça.
Ouais,
il dit plus de choses. Je pense que c'est une façon de se protéger, y compris par rapport à son groupe, parce que des joueurs ont dû critiquer Pavard, ont dû faire sentir vraiment qu'ils n'avaient pas confiance.
Ah, mais Dembélé l'a manifesté pendant notamment. Le match, hein, plusieurs fois.
Donc, si tu veux, c'est investir à ce niveau-là, c'est la guerre. C'est la guerre entre certains joueurs. Je dis la guerre, ça ne veut pas dire qu'ils ne s'entendent pas, mais c'est la guerre pour ta place. Deschamps, il fait des choix en ce moment. Pavard, ça doit être très dur à encaisser. De voir les choix même que peut faire Deschamps. Donc on en revient au choix qu'a fait Deschamps, que moi je ne comprends pas effectivement sur ce manque de latéraux. Donc une fois que tu n'as pas les bonnes personnes, tu risques de cramer ton Camavinga que tu as mis là hier arrière gauche pour ses premiers pas en Coupe du Monde, tu risques de cramer Koundé comme tu l'avais déjà fait avant, déjà quand tu le mettais latéral droit, tu peux cramer Dizazi puisque alors là tu une grande nouveauté en latéral droit, etc. Et donc tu crames Pavard qui ne joue pas son meilleur poste, qui sait qu'il est critiqué et sur la sellette parfois, qui maintenant en interne l'est aussi et qui est exposé en conférence de presse. Ça fait partie des interrogations globales sur la défense que j'évoquais tout à l'heure. C'est en ça que je dis, tu vois, que ça paraît moins clair puisqu'on parlait du Brésil où chacun sait qui il est et qui il a derrière en numéro 2, etc. C'est ça qui est en danger. Et Deschamps, mais qui navigue bien hein, globalement avec ce genre de choses, il a choisi de communiquer comme ça. C'est effectivement, comme tu le dis, pas un hasard.
Une transparence inédite pour Deschamps. Les gars, dans un instant, on va parler de la Belgique éliminée de ce mondial. C'est l'autre grande Europe éliminée après avec l'Allemagne. Et le Maroc également, rendez-vous des huitièmes de finale. Non seulement rendez-vous des huitièmes, mais aussi premier de son groupe pour affronter l'Espagne mardi à 16h. Reste avec nous. L'After intégral Coupe du Monde sur RMC. À tout de suite.
RMC. After Foot. Intégral Coupe du Monde. Intégral Coupe du Monde.
Nicolas Jamin.
Avec Flo Gaustro, avec Kevin Diaz, c'est l'After intégrale Coupe du Monde sur RMC. 1h45 ici à Doha au Qatar, 23h45 en studio à Paris pour Flo et Kevin et pour vous qui nous écoutez, beaucoup de messages. Je rappelle qu'on est également, les gars, et on vous voit hein, sur la chaîne Twitch d'RMC Sport. Vous êtes nombreux à nous regarder en direct de Doha. Il y a même un plan de coupe sur le studio RMC à Paris, sur Flo, qui a mis une écharpe, d'ailleurs, je le vois, écharpe blanche, il ne lâche pas jamais sans son écharpe.
Oui, tout à fait. Un chèche.
Un chèche au mois de décembre à Paris, c'est normal. On voit des chèches, nous aussi, ici, hein, malgré la chaleur, tu vois. Bon.
Mais il fait pas très chaud, en fait,
Il fait moins chaud, on a perdu 3-4 degrés tu vois, depuis qu'on est arrivé. C'est pas insupportable, mais il fait quand même bon.
Et la saison de ski s'annonce comment, sinon?
Un début juin. On fait du sand ski, en fait, nous, tu vois, on skie sur les dunes, ici.
Ok.
J'accueille Guillaume Gauthier avec nous, journaliste belge à Sport Magazine. Salut Guillaume.
Salut Nico, salut tout le monde.
Salut
Guillaume.
Merci d'être avec nous de l'After. Flo et Kevin sont à mes côtés. Dis-nous déjà comment est vécue l'élimination de la Belgique dès la phase de poule.
Il y a une partie de... un côté, on s'y attendait, on va dire. Surtout après le premier match contre le Canada qui, malgré la victoire, avait confirmé que c'était certainement pas la Belgique de 2018. Et même pas celle de l'Euro 2021. Donc il y avait un peu un côté fataliste, le fait que cette génération était arrivée un peu à son terme, même si je pense que le match laisse un sentiment un peu de frustration parce que on a vu sur la fin de match que avec les occasions de Lukaku qui avait la place pour gagner contre cette Croatie et prolonger un peu l'histoire, mais de manière générale c'est... On va dire que c'est une demi-surprise. C'est une déception, mais c'est au final qu'une demi-surprise.
Demi-surprise, hein. J'ai noté hein, l'âge de certains joueurs. Aldevered, on le verra plus, je pense, mon cher Guillaume, 33 ans. Vertonghen non plus, 35 ans. Mertens, on ne l'a pas vu pendant ce mondial, 35 ans. Voilà pour les joueurs crépusculaires de la sélection belge. Witsel, 33 ans. Bon, je pense qu'on verra encore Kevin De Bruyne, hein. Il n'y a pas de doute en sélection.
Bah on espère.
C'est pas sûr.
C'est jamais. Il a pas en tout cas montré une très très grande envie de briller sur les derniers matchs. On a senti beaucoup de frustration chez lui en tout cas sur cette Coupe du Monde. Donc on ne sait jamais quelle pourrait être sa réaction. Mais en tout cas en termes d'âge, S'il y en a certains qui devraient passer la main, même si un gars comme Vertonghen a dit après le match que si jamais on faisait encore appel à lui, il serait toujours là pour répondre présent. Je pense que avec le changement de sélectionneur aussi, ça va être l'occasion de marquer un tournant avec cette génération et de lancer les joueurs qui ont été petit à petit préparés ou pas assez préparés. Ça, c'est un peu selon l'avis de chacun au pays. Les analyses sont assez divergentes là-dessus. Mais ça va être l'occasion d'avoir un nouveau cycle qui va se lancer pour la Belgique, je pense.
Est-ce que la place d'Eden Hazard, après je donne la parole à Flo et Kevin, a été un gros sujet de débat chez toi en Belgique? Il a débuté les deux premiers matchs. Il a pas été d'ailleurs ridicule, hein, notamment sur le deuxième match contre le Canada. Il était remplaçant pour ce troisième match.
Je pense qu'il y avait un souci, on va dire, de soit musculaire, soit physique, qu'il était certainement... je pense que ça fait très longtemps qu'Eden Hazard n'avait plus joué 60 minutes, plusieurs matchs de suite comme ça. Et qu'il a dû en prendre le contre-coup, puisque ça s'est fait en l'espace de quelques jours, parce que clairement, il n'était pas du tout ridicule. C'était même, je pense, le meilleur joueur offensif de la Belgique sur les deux premières rencontres. Ou le moins mauvais, parce que la Belgique a été très décevante offensivement, et meilleure défensivement que ce qu'on pensait, mis à part le match contre le Canada, ce qui était un peu le monde à l'envers par rapport à ce qui était attendu avant la compétition, où les craintes étaient surtout sur la défense. Mais donc non, on a un hasard où on se dit, voilà, à ce niveau-là, il pourrait peut-être encore rendre des services. On attendait beaucoup de Leandro Trossard, qui a eu sa chance aujourd'hui à la place d'Hazard, et qui n'a pas été aussi bon que ce qu'on avait pu apercevoir avec Brighton, pas aussi décisif. Et on se dit finalement, est-ce que ce Trossard-là, en pleine force de l'âge, puisque lui a 27 ans, je pense, apportait vraiment plus qu'un hasard qu'on dit sur le déclin depuis 3 ans?
C'est vrai. Flo, Kevin, tu voulais réagir à la Belgique?
Je pense que notre échange avec Guillaume en dit beaucoup, hein. C'est-à-dire que si en Belgique on se demande si Eden Hazard c'est pas le joueur le plus décisif ou s'il doit pas être titulaire dans cette équipe, c'est forcément que cette équipe elle a été vouée à l'échec. C'est-à-dire que ce parcours il pouvait pas aller beaucoup plus loin de que peut-être un huitième de finale si tu dois attendre d'un joueur qui a joué pas plus de, allez, je sais pas combien de minutes exactement, je ne sais pas compter.
Six
apparitions en Liga, sans parler l'an dernier, etc. Voilà, pour moi, fallait bâtir cette sélection autour d'un seul homme, autour de Kevin De Bruyne, préparer les théâtres, peut-être les Faes, je sais pas qui, les Trossard, enfin bref, il doit y avoir des jeunes joueurs qui ont quand même de la qualité dans cette sélection belge. Il fallait préparer l'avenir et non pas essayer de finir avec les vieilles gloires pour presque leur rendre un dernier hommage. Je pense qu'il faut savoir couper court dans une sélection, surtout dans un petit pays comme la Belgique. C'est dur, on le sait, mais bon, il faut le faire.
C'est vrai, Flo, on en a fait beaucoup sur la Belgique, hein, en 2016, en 2018 également. C'est là qu'il nous fait le coach réellement.
C'est comme dans une équipe qui, dans ses temps forts et dans ses rates, ses occasions, tu sais, et qui perd le match à la fin. La Belgique, c'est pas cette compète là, 2022, où tout le monde savait qu'il y avait une fin de cycle, comme l'a dit Guillaume. On s'y attendait, comme l'ont dit les joueurs eux-mêmes. Moi, j'ai rarement entendu des joueurs dire, pendant la compétition en question, que c'est trop gros, pendant la compétition en question, que tes attaquants sont pas assez bons. Enfin, donc
des fois, ça sont trop lents également. C'est incroyable.
Donc, ouais. En gros, si tu veux, là, en gros, t'es arrivé au bout du chemin. Tout le monde on est dans ce fameux schéma, tu sais, de fin de cycle où tout le monde le sait. Mais c'est tellement compliqué avec le même sélectionneur de changer. Tu n'as pas encore la certitude de pouvoir le faire, de devoir le faire, que tu attends d'aller dans le mur, de casser ta voiture pour changer, réparer et garder vraiment le nécessaire. C'est le destin de ces équipes-là, sauf que à la différence de celles qui parfois avaient gagné avant d'arriver à cela, comme l'a dit sans concession la Thibaut Courtois, je lis ses réactions là d'après élimination, lui il dit génération dorée peut-être, mais on n'a rien gagné. Donc il dit doré, oui, techniquement impressionnant, des beaux parcours, mais rien au bout. Donc tu vas dans le mur, mais en plus avant, même dans tes temps forts, t'as pas gagné la compète qui aurait pu te changer un peu l'histoire de ta sélection. Donc c'est dommage. Je note quand même après un manque d'âme en dehors de tout le reste, de côté fin de cycle, de fatigue,
plus que l'âme, un manque de cohésion.
Ouais, voilà. Et donc ce qu'on disait tout à l'heure sur l'atmosphère au sein de la sélection, sur les inimitiés qui existent dans plein d'équipes, mais qui, quand elles ressurgissent à ce point sur le niveau de l'équipe, sont pas tolérables. Là, il y a un travail derrière pour celui qui va prendre la suite qui est énorme. Et je pense que s'il y a eu la décision de Martinez de partir aussi vite, c'est que tu vois, c'est dans ces cas-là, tu ne peux pas faire autrement, parce que lui doit savoir que de toute façon, c'est injouable. Ouais.
Pour, de partir pour... aussi vite, il était arrivé il y a maintenant 6 ans, je crois.
Non, je parle là après l'élimination de
voilà. C'est juste après.
Annoncé, voilà, c'est clair, c'est net, ouais, en gros, c'est fini.
Alors justement, Flo, je me tourne vers toi, Guillaume. Est-ce qu'il est exclu, totalement exclu, que Thierry Henry succède à Roberto Martinez?
Non, je pense que ça va être une des pistes envisagées. En tout cas, Roberto Martinez a dit en conférence de presse après le match que sa décision, elle était déjà prise avant le tournoi. Donc, quel que soit le dénouement du tournoi, qu'il aurait arrêté son aventure à la tête de la Belgique maintenant. Donc voilà, est-ce que l'élimination a précipité les choses? Lui dit que non, on n'est pas obligé de le croire, mais j'ai la sensation que c'est effectivement le cas, qu'il se rendait compte lui-même qu'il était arrivé un peu au bout de l'histoire et qu'il fallait un renouveau. On le sentait dans l'équipe, je veux dire, les gens en Belgique, ils en ont marre de voir Martinez, Alderweireld, Vertonghen, parce que ça fait 6 ans qu'ils voient Martinez et 15 ans qu'ils voient Alderweireld et Vertonghen, qui sont vieillissants, qui ont pas grand chose à se reprocher sur les deux derniers matchs de la compétition en soi. Mais pour en revenir à la question, oui, je pense que Thierry Henry, ça va sans doute être une des pistes. Thomas Vermaelen, qui a intégré le staff il y a quelques temps, ça peut être une piste aussi. Je pense qu'il y a aussi une volonté au pays de peut-être redonner la chance à un sélectionneur national. On va dire qu'avant Martinez, il y avait souvent des conflits un peu linguistiques entre un coach néerlandophone ou un coach francophone. Mais ici, on arrive avec des joueurs de cette fameuse génération qui ont fait un pas de côté, qui deviennent entraîneurs et qui ont le charisme et l'autorité nationale suffisante pour dépasser un peu ce clivage du fait qu'ils soient flamands ou wallons. Et donc je pense que pour moi Vermaelen pourrait être une option, tout comme Thierry Henry en est certainement une. Il a accompagné cette équipe pendant longtemps, il a certainement une idée derrière la tête en faisant ça, et il est très apprécié d'une bonne partie du groupe de joueurs, donc c'est pas à exclure en tout cas.
Merci beaucoup Guillaume, merci d'être venu dans l'after ce soir, 23h54 pour toi également, merci à toi. Donc on verra Thierry Henry, pourquoi pas sélectionneur des Diables Rouges dans les prochaines semaines. Les gars, le Maroc, rapidement un mot quand même, parce que le Maroc va jouer un 8e de finale de Coupe du Monde pour la première fois depuis 1986. Ils avaient été battus par l'Allemagne, je crois, j'ai un doute, oui. Flo, je me tourne vers toi.
Battu, je sais plus par qui, mais battu.
Allemagne, 1986, il me semble.
On va trouver ça. Mais en tout cas, moi,
bon, les gars, quelle impression vous avez fait le Maroc?
Alors, moi, ce que j'aime beaucoup.
C'est bien ça, 1-0 par les RFA.
RFA, ouais. Vas-y. C'est marrant parce que je suis en train de regarder à la télé Romain Higueux qui parle de la Coupe du Monde 86 et qui dit que c'est son meilleur souvenir. Sur le Maroc, c'est une équipe verticale, comme on l'a dit tout à l'heure, qui apporte cette énergie qu'on n'a pas vue chez toutes les équipes, on va dire, les équipes traditionnelles, les places fortes du foot mondial. Pour tout dire, je mets une pièce sur le Maroc contre l'Espagne.
Ouais. Pourquoi pas? Et moi, j'avais dit avant la Coupe du Monde, on parlait avec Hamza du retour du grand Hakim.
Hamza Ramani.
Hakim Ziyech, qui est de retour et qui est très bon, donc tant mieux. Et moi, je disais que pour moi, en tout cas, avec l'absence de Sadio Mané, c'était le Maroc qui avait la meilleure équipe africaine, avec une assise défensive très correcte. Naïf Aguerd, Bono, le gardien, Saïs, etc. Un bon milieu de terrain. Des joueurs offensifs intéressants avec Hakim Ziyech, donc, et El Nissiri notamment. Donc ouais, non, franchement c'est une équipe qui respire vraiment la joie de vivre. On parlait de cohésion, de manque de cohésion en parlant de la Belgique, mais le Maroc, on sent qu'ils sont vraiment soudés depuis le départ de Vaïd. On sent que l'arrivée ou le retour plutôt de Ziyech et de Mazraoui notamment, ils veulent montrer qu'ils peuvent et qu'ils n'ont pas fait partir l'entraîneur pour rien. Et donc je pense qu'ils ont tout un pays derrière eux et qu'ils peuvent faire vraiment un beau parcours.
Voilà pour le Maroc, les gars. L'affiche, le Maroc, on en parlera dans la libre antenne dans un instant avec Nico Villas, Maroc-Espagne, mardi à 16h. Bonsoir, Nicolas Villas. La libre antenne prend le relais. Ça fait longtemps, Nico.
Ce que j'allais te dire, et alors, tu commences à me manquer, toi, là?
Bah, c'est pareil. Je pense à toi tous les soirs, tous les matins, la journée.
Et pourquoi t'envoies pas des photos alors quand tu penses à moi?
Parce que je ne veux pas te faire du mal, mon cher Nico.
Non, ça me ferait du bien, je t'assure. Vous me manquez, les mecs, ça commence à faire long. On vous attend au 32-16. Il y a Max et Adri qui vous attendent au standard, la libre antenne. Vous connaissez le principe. On est là tous les soirs pendant la Coupe du Monde jusqu'à 1h du mat. 32-16, tu viens parler de ce que tu veux. Tu as donné un petit avant-goût du programme qui n'existe pas, puisque tu parles de ce que tu veux. Mais pourquoi pas des supporters du Maroc, des supporters de la Belgique, un peu vénère du Japon aussi. Il y en a quelques-uns, de l'Espagne, de qui tu veux, de l'Allemagne. Oh là là, l'Allemagne. Et on a vécu une soirée encore de feu de Dieu. Voilà, ça y est.
Nico, avant de te donner la main, il faut que je félicite Guillaume qui a gagné le maillot de la National Match avec Foot Corner.
Ah ouais, en plus,
maillot collector ce soir, c'est magnifique. On le reverra plus sur une pelouse en Coupe du Monde. Merci Kevin, merci Flo, Nico, c'est à toi la libre antenne sur RMC.